vendeuse devant les prud'hommes. Elle demande réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
La plus rebelle des radios.
Il est 19h03 et c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, de quoi on va parler?
Des 7000 migrants qui marchent sur Trumpland en ce moment même.
On va parler du meurtre de Jamal Khashoggi.
Macron qui refuse à ce sujet de répondre sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite. Étonnant.
Et ensuite, on finira avec des histoires...
Comment ça, on finira?
Non, on finira pas du tout. On parlera en tout cas du Sénat. On va savoir un peu s'ils font des conneries ou pas. Ah, c'est ça.
Et puis, on ira à Toulouse, où des handicapés vénères ont bloqué aujourd'hui un TGV pendant une heure. Et alors, on dirait qu'ils vont pas s'arrêter là.
Trop la classe. Eh ben, il semblerait qu'il n'y ait pas qu'à Toulouse que les gens soient énervés, puisqu'un petit groupe a dû se faire bien plaisir, monter du change dans le 5e arrondissement à Lyon. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le 5e arrondissement et ces fameuses mauvaises fréquentations, monter du change, je ne connais pas l'adresse exacte, mais se situe le local des identitaires lyonnais. Voilà, en tout cas, sa porte a été jointe à la mousse expansive, puis recouverte de peinture, puis la montée du change a été recouverte de graffitis au style facho, et plutôt accueillante pour les migrants, hein, du style fasciste go home et refugees welcome. La brève de deux quotidiens locaux, hein, Lyon Mag, qui titre sobrement, je cite, « La montée du change, victime de vandalisme hein, », omettant dans son titre toute connotation politique à cette action. Hein, c'est, voilà. Je sais même pas au final pourquoi j'ai cliqué quand même sur le lien.
Vous trouver un titre du Progrès.
Et voilà, et le Progrès.
Qui va être encore plus magnifique.
Alors non, le Progrès, bon, le titre du Progrès est assez, je l'ai pas noté, mais c'était un acte revendiqué par les antifascistes lyonnais. Bref, mais en tout cas, qui quand même dans sa longue tradition d'investigation est allé choper la première passante hein, présente dans le coin qui déclare, je cite, « La montée du change est une référence sur les guides touristiques et est donc constamment fréquentée par les touristes du violon. C'est une honte de voir ce genre de dégradation. » Alors peut-être qu'elle craint que la note de la montée du change sur TripAdvisor ne soit dégradée. Et on on continue de faire la nique aux identitaires lyonnais puisque ces couillons s'étaient bien déplacés du côté de la frontière française et italienne vers les Hautes-Alpes, là-bas, pour faire une opération. Bref, on n'en parlera pas plus. Mais en tout cas, une chouette initiative a eu lieu du côté de Gap, puisque dans les Hautes-Alpes, un nouveau squat, centre social autogéré, vient d'ouvrir rue de l'Imprimerie. Bon, je donne la rue, nous, c'est vrai qu'on est à Lyon, mais si jamais vous êtes de Gap ou que vous avez envie d'y faire un tour, et ben voilà, c'est rue de l'Imprimerie. Voilà, avec pour but de proposer un hébergement et des activités libres et gratos. Et bien sûr, dans leur appel à venir, ils précisent, si jamais ils devaient le préciser, que on s'en fout que t'aies des papiers ou pas. Voilà, on imagine que vu là où c'est et vu l'ambiance dans la région, que les exilés seront largement bienvenus dans ce lieu.
Et alors, pendant ce temps-là au Mexique, il y a donc les 7000 migrants qui marchent sur Trumpland. En fait, c'est moi, je voulais en parler parce que j'en ai entendu parler depuis quelques jours, là, sur France Info et France Culture. C'est pas hyper différent. Enfin, c'est pas hyper différent comme, c'est différent comme traitement, mais pas comme source. Mais ils en parlent vraiment tous les jours. Du coup, j'ai pas non plus des sources moi-même hyper différentes parce que je connais personne au Mexique en ce moment, mais ça m'a donné envie de creuser. Donc je vais vous raconter ce que j'ai trouvé sur cette caravane de migrants. C'était au départ environ 2000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont partis aux alentours du 15 octobre, je crois, de San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, après un appel, c'était d'abord sur les réseaux sociaux, un appel qui a été relayé par un ex-député du pays. Et puis petit à petit, il y a d'autres personnes qui les ont rejointes, jusqu'à faire cette caravane qui aurait maintenant 6 ou 7 000 personnes, on ne sait pas bien. Alors, ce que j'ai trouvé comme info aussi sur l'Honduras, mais je ne sais pas bien, comme je ne sais pas qui c'est qui est dedans, je ne sais pas en quoi ça explique, mais en tout cas l'Honduras est réputé un des pays les plus violents du monde, où il y a un taux annuel de 43 homicides pour 100 000 habitants. Je ne sais pas du tout combien il y en a en France, hein, donc ça ne nous donne aucune idée. Mais en tout cas, il y a plus de 500 000 personnes qui traversent chaque année la frontière du sud du Mexique pour ou bien rester au Mexique ou aller vers les États-Unis. Donc ce n'est pas du tout un truc isolé, quoi. Et cette caravane-là, donc ces 7 000 personnes, elles sont entrées au Mexique comme ça, sans visa, alors qu'il y avait la police du Mexique était bien avertie déjà quand elles arrivaient, avec un hélicoptère et tout. Et ben du coup, ils ont traversé le fleuve, le Suchiate, je ne sais pas comment on dit, le fleuve qu'il y a entre le Mexique et le Guatemala. Et maintenant, elles traversent le Mexique vers le nord pour arriver aux États-Unis, dans des conditions assez galères, parce qu'apparemment, ils n'ont pas grand-chose à boire et à manger. Et ça fonctionne notamment parce qu'il y a des relais, des gens à chaque étape, un peu pour les soutenir et leur apporter notamment la nourriture et l'hébergement. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, c'est la campagne des mid-terms, les élections de mi-mandat pour Trump. Ce qui fait que Trump, il est tout vénère. Il a dit sur Twitter lundi, la semaine dernière, que les États-Unis allaient réduire l'aide allouée au Guatemala, au Honduras et au Salvador s'ils n'empêchent pas les migrants d'arriver à la frontière du pays. Et en fait, dans son langage à lui, ça fait l'énorme aide internationale que nous leur accordons s'ils n'ont pas été capables de faire leur travail et d'empêcher que les gens de quitter leur pays pour venir illégalement aux États-Unis. En fait, moi, je trouve qu'on entend souvent parler des tweets de Trump, mais je n'ai jamais lu, et du coup, je trouve que d'entendre la version originale, c'est...
Ouais. Ça fait du bien,
c'est
des fois.
C'est encore pire, quoi. Voilà. Mais apparemment, au Mexique, les autorités du Mexique auraient décidé pour le moment de laisser passer des femmes et des enfants qui auraient été conduits dans un refuge, et les autorités locales auraient affirmé avoir reçu 640 demandes d'asile. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je trouve que c'est quand même... Enfin, comme c'est 7000 personnes de départ, forcément, ça fait toujours des gros chiffres, même si c'est pas grand monde à la fin. Et en fait, cette caravane, c'est pas la première fois. Il y en avait déjà une au printemps dernier, que j'ai... Enfin, là, j'ai vu des articles là-dessus, mais finalement, ça me dit quelque chose. Enfin, en tout cas, c'était déjà autant médiatisé, je crois. Mais ce coup-ci, c'était plutôt autour de 1000 personnes qui venaient aussi du Honduras, avait traversé la frontière du Guatemala avec le Mexique, enfin qui était partie de la frontière du Guatemala avec le Mexique en mars, et elles avaient marché jusqu'à à Matias Romero dans le Oaxaca. Et là, c'était en début avril, les organisateurs de la caravane avaient renoncé à poursuivre le voyage, donc encore bien loin de la frontière avec les États-Unis, parce qu'ils disaient qu'ils étaient dépassés par le succès de la caravane, puisqu'il y avait un grand nombre de participants, participantes, notamment à cause de la proportion de jeunes enfants. Mais ils avaient aussi entendu parler déjà des menaces de Trump, qui avait d'abord exigé sur Twitter à ce moment-là aussi que les autorités mexicaines stoppent la caravane. Et ensuite, Trump, il avait aussi ordonné l'envoi de la garde nationale à la frontière avec le Mexique pour encore plus contrôler l'immigration et pour augmenter la pression sur le Mexique. Donc c'était pas que des tweets quand même. Et là, c'est pareil, en fait, il a parlé de baisser les aides sur Twitter. Je sais pas du tout ce qu'il en est. J'imagine que ça se fait moins vite que de cliquer, mais je pense qu'il est aussi capable de... Enfin, qu'il les insère. voilà, mais en tout cas, tout ça, c'est aussi pour dire que ces caravanes, c'est un truc qui est organisé régulièrement, enfin chaque année au moins, depuis 2010, par une ONG qui s'appelle Peuple sans frontières, que je ne connais pas, donc je ne peux rien en dire. Mais apparemment, son objectif, ce serait de rendre visible le trajet que suivent des milliers de personnes depuis l'Amérique centrale à travers le Mexique, au mieux jusqu'aux États-Unis, en dehors des caravanes. Quoi. Les caravanes, c'est une façon de le visibiliser. Et ça permet aussi, quand c'est organisé comme ça avec l'ONG, aux participants et participantes de recevoir des visas des autorités migratoires mexicaines. Pour certaines personnes, c'est des visas de 20 jours quand ils ou elles veulent sortir du pays. Pour d'autres, quand ils ou elles veulent rester au Mexique, notamment, c'est dit notamment c'est les personnes qui voyagent avec des enfants, je ne sais pas en quoi ça joue, mais c'est des visas de 30, des visas de 30 jours. Du coup, il y a un côté, le fait que ce soit encadré comme ça, peut-être que ça... renforce les possibilités d'arriver, enfin d'arriver, de rester quelque part, de ne pas se faire expulser complètement au final. Je ne sais pas, en fait, parce que les caravanes précédentes, je ne sais pas comment ça s'est fini. Mais là aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, côté part, c'est une mesure à la fois concrète, puisqu'il y avait ces visas, et en même temps aussi symbolique, parce que c'était pour montrer qu'il y a toutes les autres personnes qui le font seules ou en petit groupe et qu'on ne voit pas. Et bien là, apparemment, selon ce qu'on dise. Enfin, les médias, toujours France Info et France Culture, quoi. C'était que cette mesure-là aurait été comme débordée par toutes les personnes qui participent, au point de parler d'une stratégie collective qui sert à se protéger contre les attaques à la fois de la police mexicaine et puis de tous les fers fossiles du Mexique qui peuvent vouloir relayer la police, et de renforcer leurs chances d'arriver jusqu'à la frontière aux États-Unis. Et avec des manifs en soutien à Mexico, de, notamment, enfin en tout cas de, sur leur étape, apparemment, des soutiens, quoi. C'est ça qui fait aussi que ça fonctionne. Du coup, voilà, je ne sais pas où ça en est. Je sais
et
pas
puis que même quand ils vont arriver à la frontière avec les États-Unis, quand les douaniers américains vont vouloir les arrêter, s'ils sont 7000, c'est sûr qu'ils vont avoir une sorte de force collective pour passer la frontière.
Ben ouais, puis on imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont s'arrêter ou abandonner ou s'arrêter au Mexique, et il y en a aussi d'autres du Mexique qui vont se raccrocher, parce que, en tout cas, moi, ce que j'avais entendu sur les manifs de soutien à Mexico, c'était notamment des personnes qui avaient été des personnes mexicaines qui avaient été aux États-Unis qui avaient été expulsées et qui soutenaient les migrants
avec l'idée peut-être de se raccrocher à la caravane, tu veux dire.
Ouais, en tout cas, en sachant ce que c'est que de passer la frontière, de se faire expulser. Et, du coup, je pense qu'au Mexique, il y a déjà plein de gens qui veulent faire ça. Donc voilà, ça, je trouve que ça fait un espèce de potentiel, en tout cas, pas enthousiasmant.
Alors, figurez-vous que hier, Emmanuel Macron était en visite au salon Euronaval. Euronaval, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon de marchands d'armes, mais comme son nom l'indique, de marchands d'armes sur des bateaux. De bateaux de guerre, une saloperie comme ça. Toujours est-il que pendant cette visite, des journalistes lui ont posé des questions, mais il a refusé de répondre des questions sur un éventuel arrêt des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite.
Ah.
Eh bien oui, les journalistes lui demandaient si la France comptait suspendre ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, comme l'a demandé lundi à tous les Européens le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, suite à l'histoire du fameux meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, Donc celui qui est rentré dans le consulat turc et puis dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie et qui s'y est fait découper en petits morceaux pour autant qu'on comprenne. Enfin, un truc de dingue, vous avez entendu l'histoire du sosie qu'ils ont fait rentrer dans l'ambassade pour le faire sortir devant les caméras, pour faire croire que le gars était ressorti. Ils ont vraiment préparé ça hyper bien, quoi. Et donc voilà, toute cette polémique internationale pour savoir dans quelle mesure l'Arabie Saoudite est responsable, dans quelle mesure le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est personnellement responsable. Oui, non, nanana. Bon, en gros, c'est sûr qu'il a été tué par l'État saoudien, quoi. Donc, entre autres, le ministre allemand de l'économie a dit, puisque c'est ça, il faut des sanctions, il faut que tout le monde, et en particulier l'Europe, on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et Macron, sur le coup, n'a rien dit. Quand les journalistes lui ont posé directement la question hier, il a répondu « Mon agenda n'est pas dicté par les médias, que ça vous plaise ou non, je suis sur un autre sujet, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter, rien, donc je n'y répondrai pas. »
Ce qui n'est pas faux, c'est que comme le journaliste s'est fait découper à la scie, a priori, ils n'ont pas utilisé d'armes.
C'est ça. Ceci dit, c'est pas complètement juste non plus, vu que on lui parlait des ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite. Ben enfin bon, effectivement, on dirait que ça n'a rien à voir. Si c'est le président qui le dit, en tout cas, il était assez agacé. Florence Parly, qui était avec lui, elle a répondu que la première priorité, que l'enquête soit menée et que cette enquête soit crédible. Alors bon, pendant ce temps, les autres chefs d'État, Donald Trump avait déclaré samedi que suspendre les ventes d'armes, ça ferait beaucoup de mal à l'économie américaine. Alors Donald Trump, il est là-dessus. La chancelière allemande Angela Merkel a prévenu que Berlin n'autoriserait pas, pour l'instant en tout cas, d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dirigeants qui sont un peu plus courageux que d'autres. Et bon, la France, comme d'habitude, ne fait pas partie des...
dans les d'autres.
C'est ça. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, lui a dit qu'il n'excluait pas que le Canada puisse annuler un important contrat de vente d'armes à Riyad. Alors aujourd'hui, quand même, le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, alors quand même, finalement, la position du gouvernement français est finalement ferme et courageuse, puisque aujourd'hui, il a eu des déclarations très, très décidées. Tant que cela ne sera pas parfaitement établi et tant que ces faits ne seront pas corroborés par nos services de renseignement, nous retiendrons nos décisions. Donc, surtout, ne rien décider tant que tout n'est pas prouvé, surprouvé et archi-prouvé. Ça me rappelle une histoire de lignes rouges et d'armes chimiques à des moments, mais bon. En revanche, dit-il, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Arabie Saoudite serait avérée, alors nous en tirerions les conséquences et nous prendrions des sanctions, a déclaré Benjamin Griveaux.
Beaucoup de conditionnalités.
Il faudrait que ça soit prouvé et que ça soit corroboré par les services de renseignement qui donc, de toute façon, reçoivent l'ordre de ne pas corroborer. Et a priori, enfin, voilà, c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas gros risque non plus. Alors voilà, pendant ce temps, l'Arabie Saoudite se sert des armes qu'elle achète à la France. Elle s'en sert en particulier au Yémen, parce que c'est ça, c'est que Khashoggi, a priori, sans doute, entre autres, parce qu'il était journaliste, on en fait un truc énorme, mais quand même, les saloperies que fait l'Arabie Saoudite, Khashoggi, ça reste un tout petit machin. Et que pendant ce temps, les armes vendues par la France, elles servent à quoi? Eh bien, écoutez, je vais vous lire des petits extraits de Wikipédia sur le conflit au Yémen. En février 2018, l'ONU dresse un bilan des pertes civiles. Il dépasse les 10 000 morts depuis un an et demi. Le blocus du pays par les puissances arabes a provoqué la pire crise humanitaire de la planète. Tout ça, donc, les armes françaises, hein, je le répète. Selon les Nations Unies, 7 millions de personnes, soit un quart de la population, sont au bord de la famine. Blocus grâce aux armes françaises. 1 million a été touché par le choléra, grâce aux armes françaises. Le 9 août 2018, les frappes aériennes... Alors ça c'est une histoirette dans toute la guerre, mais enfin bon, les frappes aériennes, des bombes françaises, contre un bus civil, provoquent un scandale international en tuant 29 enfants, puisqu'il s'agissait... Non, d'ailleurs pas du tout, mais en tuant 29 enfants sur un total de 51 morts. C'est donc une bombe française.
« Alors, un peu en guise de bienvenue au nouveau préfet du Rhône, car il semblerait que préfet du Rhône soit devenu un peu le nouveau tremplin pour les préfets. Le dernier en date va finir ses commissions dans le nouveau cabinet du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est le seul à bien avoir voulu prendre place Beauvau à la place de Gérard Collomb. Nouveau gouvernement né dans un long et douloureux accouchement. Et c'est donc Pascal Maillot, hein, oui, c'est pas de ma faute, qui va s'élancer sur le plongeoir de la préfecture du Rhône. Bon, on va pas dire trop de conneries, hein, parce que ce monsieur nous vient quand même tout droit des renseignements généraux dont il a été à la tête de 2004 à 2006. Bon, vous aurez noté, 2004 à 2006, quand même, pour ce genre de carrière, c'est assez court. Hein. Et oui, parce qu'en fait, en vrai, Sarko l'avait dans le pif. Hein. Il aurait préféré qu'en 2004 soit nommé son... son fils spirituel, bref, Bernard Squarcini, hein, qui a fait ses preuves dans de nombreux dossiers. Bref, il lui en veut, hein, à Maillot, et sautera donc sur la première occasion pour le virer, ce qu'il fit, en 2006. En gros, il lui en veut d'avoir publié des notes, des renseignements généraux, disant que les émeutes de 2005, ah, c'est bon, c'était pas non plus des bandes organisées comme le ministre de l'Intérieur, nommé Nicolas Sarkozy, à l'époque, le criait sur toutes les chaînes, de n'avoir pas vu venir le coup de l'affaire Clearstream, hein, alors lui qui était quand même chargé d'écouter à peu près tout ce qui pouvait concerner le gouvernement. Bref, il lui en veut, il le fera tomber donc en 2006. Bon, alors, sous nos latitudes, hein, la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est que Collomb soit élu puis réélu maire de Lyon pour la xème fois. Bon, ça, bon, voilà, pour moi, élu prochainement, ça fait pas trop de doute. Réélu, on verra. Bref, en tout cas, et que les deux, Collomb et Maillot, s'entendent à merveille. Alors, on pourrait faire des jeux, hein, comme Ketchup Maillot, hein, mais bon, on l'espère pas. Et en tout cas. Ouais, bon, forcément, c'est fallait la faire. Bref, parce qu'on se souvient, hein, quand même les années un peu pas simples à Lyon, où régnait entre la préfecture du Rhône avec le très sarkozyste Jacques Guéraud et qui, main dans la main avec Gérard Collomb, ont mené une lutte acharnée contre les prostituées, les Roms, les sans-papes, bref, un peu tous les pauvres qui traînaient dans le quartier. Relève qui s'est à peine adouci avec son successeur Karenko. Voilà, en tout cas, s'il pouvait naître de ce duo des tensions et des conflits, on a de fortes chances de s'en tirer plutôt gagnant, en tout cas un tout petit peu moins perdant.
Alors, le Sénat ne chôme pas, vous allez voir, ils sont grave en forme en ce moment. Et on va commencer par une proposition de loi qui a été adoptée hier, donc au Sénat, uniquement au Sénat. Un texte de droite qui vise à, ouvrez les guillemets, prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations. Le texte qui a été soumis par le chef de file des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, a été voté en première lecture à main levée. Avec les voix, les Républicains, les voix des centristes, les voix des indépendants, et par contre le PS, le groupe, en gros le groupe des communistes, et La République, et La République En Marche, et ça c'est quand même un petit peu important, ont voté contre le texte. La proposition de loi prévoit à titre préventif que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus qui seraient susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public. Alors, on ne sait pas exactement sur quelle base, mais certainement sur la base de notes blanches des services de police ou de renseignement ou je ne sais quoi. Et pour le coup, c'est pas comme ce qui avait été fait jusqu'à maintenant et ce qui était possible dans le cadre d'abord de l'état d'urgence, puis des lois qui ont été votées pour faire que l'état d'urgence arrête d'être un état d'urgence, mais soit juste la loi générale. Jusqu'à maintenant, c'était quand même qu'on pouvait interdire à une personne de se trouver dans le périmètre de la manifestation le temps de la manifestation. Là, il s'agirait d'interdiction de manifester, point final, et sur la durée, quoi. Pas à l'occasion d'une manif. Et du coup, il y aurait la création d'un fichier national des personnes interdites de manifestation. Hop, dans la foulée.
La grande classe, quoi.
La grande classe. Le préfet pourrait aussi autoriser, alors pendant les 6 heures qui précèdent une manifestation et jusqu'à la dispersion dans un périmètre délimité, des palpations de sécurité et fouilles de sacs. Bon, entre-temps, je ne sais pas si les préfets autorisent beaucoup, toujours est-il que globalement, quand on va à une manifestation un peu balèze, c'est monnaie courante.
C'est devenu monnaie courante.
C'est devenu monnaie courante, tout à fait. Parce que globalement, quand même, ces histoires de manifestation, il y a vraiment une sorte de tournant pendant le quinquennat de François Hollande, en particulier à l'occasion de la loi travail, mais en réalité déjà un petit peu avant, en fait tout ça suite aux histoires d'attentats à Paris, il y a eu un énorme durcissement, avec le prétexte des attentats de Paris, un énorme durcissement, et en tout cas à l'époque de Sarkozy, personne n'avait peur d'aller manifester, personne ne se disait que c'était risqué d'aller manifester, a priori les manifs pouvaient se terminer en baston à un moment ou à un autre, mais en tout cas tout le monde pouvait choisir de rester ou pas à ce moment-là. Et le fait que des cortèges de gens, d'honnêtes gens, enfin, ou en tout cas de familles avec des enfants et des vieillards et toutes ces personnes plus potentiellement faibles se fassent directement attaquer par les flics, ça n'existait pas à l'époque de Sarkozy. C'est vraiment Valls, Hollande qui ont mis ça en place. Et bon, pour le coup, ça continue à servir beaucoup. En tout cas, le texte prévoit aussi pour le côté purement répressif. Alors pour l'instant, il existe une infraction de dissimulation volontaire du visage pendant une manifestation. Et bien, ça, au lieu d'être une infraction, ça deviendrait un délit qui serait puni de, parce que vous avez un masque, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Infraction qui, alors en tout cas peut-être je me plante, mais qui a l'air d'être très peu sanctionnée, ou j'imagine ça doit... Quand c'est sanctionné, ça doit être prononcé sur des trucs où pour rajouter un peu, genre sur ton tas d'autres trucs qui sont reprochés. Mais...
Oui, c'est ça. Mais alors après, une fois que tu pourras avoir 1 an d'emprisonnement pour ça, ça risque aussi d'être assez facilement un truc où les flics qui t'arrêtent et après ils te reprochent d'avoir masqué ton visage. C'est difficile de prouver que tu n'as pas masqué ton visage pendant toute la manifestation. Ça sera la parole des flics. Et du coup, tout manifestant arrêté pourra assez facilement être envoyé en taule avec cette accusation. Alors voilà, les députés d'ici disent ça, ce projet de loi rogne clairement sur les libertés publiques, notamment sur la liberté de manifester, ça c'est un gars du PC qui dit ça. Nous craignons que le remède s'avère pire que le mal, c'est un gars du PS. Donc vous voyez, il y a quand même de l'opposition. Et même quelqu'un de La République En Marche dit que le texte présente encore des risques importants pour les libertés individuelles. Alors voilà, tout ça, ça fait que ce texte en réalité ne sera certainement pas voté. Ce texte précisément. Pour l'instant, donc, il vient juste d'être proposé au Sénat et adopté par le Sénat. Mais le Sénat, c'est un ramassis de vioc dégueu de la droite classique, la plus vauquée, quoi.
Gérard Collomb, il siège, par exemple.
Ouais, par exemple. Ah oui, tout à fait. Gérard Collomb,
si,
il siège.
Si ça peut vous donner une image.
Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, l'UMP, les Républicains, des vieux sarkozistes, des vieux vauquieristes, ce genre de personnes. Le texte après le Sénat, il va devoir passer à l'Assemblée nationale, et là à l'Assemblée nationale c'est La République En Marche qui a la majorité absolue, donc de toute façon elle décide ce qu'elle vote et ce qu'elle vote pas. Donc pour l'instant ce qu'ont dit les gens de La République En Marche, c'était négatif, c'était globalement négatif, mais vous allez voir, c'est pas complètement ça sur ce texte, donc c'est plié, ça va pas être voté comme ça. Est-ce qu'on est soulagé? Eh ben en fait pas tout à fait, puisque le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est aussi un ancien des services de renseignement, a indiqué que le texte sera pour le gouvernement l'occasion d'avoir un échange technique. Il tient à préciser qu'il ne veut surtout pas rejeter en bloc toutes ces propositions, donc tel qu'il est, le texte ne va pas, mais quand même on ne va pas rejeter tout ça en bloc. Et il rappelle qu'un groupe de travail est déjà au boulot pour faire des propositions, et que ce groupe de travail rendra ses conclusions le 15 janvier. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que La République En Marche, ils ont un groupe de travail qui doit rendre des conclusions le 15 janvier. Pendant ce temps, les Républicains, eux, ils se dépêchent de faire un texte pour essayer de griller l'initiative à La République En Marche. Là-dessus, La République En Marche ne peut pas accepter de se faire griller l'initiative. Donc, eux, ils disent « Ah non, nous, on ne peut pas voter ce texte, il est bien trop répressif, tout ça. » Mais quand même, c'est vrai qu'il y a des bonnes idées dedans. Donc, ce qu'on attend, c'est que le 15 janvier, les conclusions aillent globalement dans ce sens, qui change 3 virgules au texte présenté par Retailleau au Sénat aujourd'hui, et puis qu'il le rapporte. Et puis qu'il nous refasse une proposition qui ressemble beaucoup à ça après janvier.
Mais tout ça pour défendre la liberté de manifester.
tout ça. Ah, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, il y a une des personnes des Républicains qui a dit qu'il ne s'agissait surtout pas de restreindre la liberté de manifester, mais bien de la défendre. Mmh. Parce que c'est sûr que les honnêtes manifestants se font régulièrement attaquer par les casseurs.
Et ils sont pris en otage.
Et les Black Blocs, ils sont pris en otage, tout à fait. Alors...
Non, vas-y.
Vous allez me dire que ces sénateurs ne sont pas complètement sympathiques. Eh bien, c'est vrai. Mais en même temps, sur cette histoire, on voit bien qu'il y a une différence entre globalement la droite et globalement la gauche. Et avec La République En Marche, qui pour l'instant dit non, mais après dira oui. Ils sont et de droite et de gauche. Sur ce coup-là, ils viennent d'être de gauche pendant le temps du vote, mais ils vont redevenir de droite vite fait. Mais alors, par exemple, si on arrête de parler de manifestants et qu'on parle de gitans, là, il n'y a plus de différence. Le Sénat et du coup le Parlement globalement a adopté aujourd'hui cette fois un texte qui double les sanctions en cas d'installation illicite. Alors ce texte prévoit le doublement des peines encourues en cas d'occupation illicite d'un terrain, et donc occupation illicite d'un terrain, ça devient un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Le Parlement a adopté définitivement mardi par un vote ultime au Sénat. Alors quand on dit le Parlement, c'est et le Sénat et l'Assemblée nationale. Et une loi pour passer, il faut qu'elle soit adoptée par les deux dans les mêmes termes. Donc aujourd'hui, il ne manquait plus que le Sénat. Le Sénat a fait « Ok, c'est bon ». Une loi qui tient encore une fois des Républicains et qui prévoit donc ce doublement des sanctions en cas d'installation illicite des gens du voyage. Hein. C'est bien de ça qu'on parle. Alors 309 voix contre 8 au Sénat. Comme ça, au moins, c'est clair. Il n'y en a pas beaucoup qui ont voté contre. Les voix pour, c'était les Républicains, les centristes, le PS, le RDSE, je pense que c'est la majorité radicale, La République En Marche et des indépendants. Autant dire, tout le monde s'est lâché sur cette histoire. Alors, bien sûr, les députés républicains ne sont quand même pas contents parce qu'au départ, ils avaient fait une proposition qui était encore vachement plus répressive. Mais là, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Il y en a qui ont dit non, non, non. Et donc, d'après la rapporteure du texte, le texte apporte des propositions concrètes aux difficultés récurrentes provoquées par l'occupation illicite des terrains, sous-entendu aux maires des villes et des villages. Parce qu'ils ont quand même de graves difficultés dans la vie. Non pas la difficulté de savoir où ils vont dormir ce soir, parce que ça, par contre, globalement, les maires, ils savent, mais la difficulté de faire dégager les pauvres qui se sont foutus au milieu d'une place. La ministre de la Cohésion des Territoires, donc cette fois-ci celle qui est de droite et de gauche, mais qui est ministre, quoi, a jugé que le Parlement était arrivé à une bonne solution. La sanction, commente un centriste cette fois-ci, sera toujours plus efficace qu'une audience au tribunal correctionnel, puisque ça sert à rien. Le texte fait obligation d'informer les autorités 3 mois avant un grand rassemblement ou tout grand passage de gens du voyage. Vous voulez passer quelque part à 15 camions avec vos potes, et ben 3 mois avant, il faut que vous informiez. Le maire de n'importe quelle commune, bon, à condition quand même que la commune ait une aire d'accueil, a le pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal. Ça veut dire, avec ta caravane, tu dégages. Et ça, alors, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, même si le regroupement de communes n'est pas en conformité. C'est-à-dire que toutes les communes sont censées avoir une aire d'accueil. Il y en a plein qui refusent d'en avoir parce que de toute façon, ils ne veulent pas voir les gens du voyage. Et donc, si vous êtes dans un regroupement de communes et qu'il y a 4 communes qui n'ont pas d'aire, mais qu'il y en a une qui a une aire, celle qui a une aire, elle peut déjà faire ce qu'elle veut là-dessus. Quoi.
Sachant quand même, il faut quand même bien se rendre compte que quand on parle d'aire, souvent, c'est de taille vraiment petite. Ouais. Et en général, il manque quand même cruellement de place sur ces aires. Et vous aurez noté que ces aires, on peut souvent les voir quand on prend les autoroutes ou les périphes, parce qu'elles sont quand même souvent, juste très souvent situées au bord des autoroutes et des périphes.
Et ouais. C'est ça. Et du coup, voilà, un premier pas d'après un gars de Républicain, blablabla. Bon, bien sûr, Jean-Luc Fichet, du PS, a estimé que la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour modifier le texte a permis de supprimer un certain nombre de mesures inutilement répressives. Parce que quand même, lui, comme il est au PS, il est à gauche et il ne voulait pas des mesures inutilement répressives. Il voulait juste un an de prison ferme pour les gens qui s'installeraient sans autorisation. Il a quand même salué un bon texte qui devrait permettre d'apaiser les relations entre gens du voyage et collectivités. Bah oui, de toute façon, quand ils seront en tôle, les relations seront apaisées.
Ouais. Oui, ça rappelle un peu le maire de Wissous qui avait été arrêté pour violence avec arme, mais qui avait été arrêté puis relâché, puis je sais pas trop ce que ça avait donné.
Ah oui, parce
mais...
que c'est ça, parce que alors globalement, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est une telle difficulté pour les maires, et il faut bien les comprendre, les pauvres, que ce maire de Wissous un jour, où des gens du voyage s'étaient installés sans lui avoir demandé son autorisation, il était venu leur dire de dégager, et les gens ils avaient dit bah non. Il était revenu quelques heures plus tard, bourré comme un coin, avec un sabre de samouraï.
Et une arme de 9 mm.
Et voilà.
Donc, il n'avait pas sorti, mais il en était.
Et bon, finalement, effectivement, les gendarmes avaient fini par. Bon, les gens autour, ils étaient un peu étonnés, tout ça. Les gendarmes avaient fini par l'arrêter. Mais c'est vrai qu'il faut voir les difficultés où elles sont et les personnes dangereuses où elles sont. Et donc, les personnes dangereuses sont bien sûr les gens du voyage et non pas les maires cinglés. Ah, il avait aussi une étoile de shérif ce jour-là, le maire. Il s'était fait une étoile de shérif pour quand même montrer qui il était. Ouais.
Heureusement, ils n'en ont plus besoin de faire tous ces efforts, comme se faire une étoile de shérif ou avoir un.
C'est ça.
Parce que ça tombait bien qu'il y en avait un.
C'est ça. Maintenant, il suffira que les gens soient installés illégalement pour risquer un an de prison. Donc, il pourra vraiment envoyer des flics, arrêter tout le monde et les embarquer. Alors voilà, quand il est question de manifestation, il reste quand même des divisions au Sénat. Il reste la droite et la gauche. Quand il est question de gitans, au moins, tout le monde est d'accord.
Quoi ?
Et maintenant, on part à Toulouse. À Toulouse, où aujourd'hui, des handicapés un petit peu vénères ont bloqué un TGV pendant un bon moment. Alors voilà, c'est des membres d'une association qui s'appelle Handi Social, qui se présente comme association militante privilégiant la défense collective et qui, sur son blog, dit que de toute façon, ils ont. On y reviendra après pour préciser sur eux. Une vingtaine de membres de cette asso se sont rassemblés sur les quais de la gare Matabiau à Toulouse, sur les quais puis sur les rails, pour dénoncer les conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et personnes handicapées. Alors, il faut dire que dans la gare de Toulouse, l'élévateur PMR comme personne à mobilité réduite, en gros l'ascenseur pour les handicapés, est en panne globalement tout le temps. C'est un ascenseur qui est censé permettre d'aller au métro depuis la gare. Donc les handicapés, globalement, ne vont pas de la gare au métro et du métro à la gare. C'est vidu. L'espèce de, visiblement, un peu de chef charismatique de Handi Social, qui s'appelle Odile Morin, ajoute « Quand cet ascenseur fonctionne, il faut maintenir la pression sur le bouton d'appel » Et de cabine. Bon, en gros, il y a une histoire où du bout de ton fauteuil, il faut que tu te penches hyper fort en avant pour appuyer sur un bouton et le garder appuyé tout le temps de ton trajet. Un truc un peu ridicule, d'autant plus que les gens, quand ils sont dans des fauteuils, ils n'ont pas forcément hyper, selon lesquels, mais ils ont pas forcément non plus un hyper bon usage de leurs bras et de leurs doigts. Là, en l'occurrence, il faut une gymnastique de dingue. Sur les nouveaux quais de la gare qui viennent d'être construits, donc alors vraiment c'est pas comme si dans les dernières années on parlait pas du tout d'accessibilité ou quoi, hein. Mais là les architectes non, ils se sont dit que tiens oui ils vont faire des ascenseurs, sauf que du coup ils ont effectivement fait un ascenseur qui permet de contourner 6 marches entre 2 souterrains. Mais que cet ascenseur, il se trouve d'une part qu'il est aussi en panne quand même extrêmement souvent, et d'autre part que de toute façon, même quand il n'est pas en panne, les trois quarts des fauteuils sont trop gros pour rentrer dedans. Ah. Ça a l'air malin. Hein. Et du coup, voilà, aujourd'hui, cette vingtaine de personnes sont posées avec leur fauteuil sur la voie ferrée, et puis ils ont bloqué pendant 50 minutes le TGV Toulouse-Paris. En justifiant leur geste, en disant « Nous nous permettons aujourd'hui de retarder votre train TGV, mais nous ne doutons pas que les quelques minutes de gêne que nous vous occasionnerons vous permettront juste de mesurer très brièvement ce que nous vivons au quotidien depuis des années pour comprendre notre colère légitime et faire preuve de solidarité. » Alors, finalement, ils ont dit que c'était bon, ils se barraient et que, d'accord, ils voulaient bien se contenter, dans un premier temps, d'une promesse de travaux qui devrait avoir lieu l'été prochain, à propos de ces ascenseurs. Mais alors, Odile Morin promet quand même que le ton va se durcir. Si rien n'est décidé en ce qui concerne l'accessibilité aux nouveaux quais, on reviendra pour bloquer la gare s'il le faut, et encore plus longtemps. Et quand Odile Morin vous dit un truc comme ça, le mieux que vous avez à faire, c'est de la croire. Parce que là, je vais vous raconter un ou deux trucs un peu plus anciens sur ces gens-là. Mais vous vous souvenez de cette histoire de la loi Elan, la loi sur le logement, avec tout un tas de saloperies dans plein de domaines différents. mais entre autres le fait que jusqu'à cette loi, quand on construit un logement, quand on construisait un logement il y a encore quelques mois de ça en France, on était obligé de faire en sorte qu'il soit un minimum accessible pour les personnes handicapées. Bon là, avec la nouvelle loi, en fait, ça sera seulement 10% des logements qui devront être accessibles. Alors bien sûr, les handicapés n'habitent pas 100% des logements, mais en même temps, ça veut dire que si moi, à un moment, je vais dans un logement qui n'est pas accessible et que finalement, je deviens pote avec un ou une handicapée, cette personne ne pourra juste jamais venir chez moi. C'est ça qui se passe avec la nouvelle loi. Alors, la bande à Handisocial n'était pas bien contente. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, par exemple, occuper une cimenterie Lafarge, en disant « La Fédération française du bâtiment, c'est elle qui est à l'origine de la rédaction de cet article. » Bim, ils ont occupé la cimenterie. Et puis, ils sont allés voir leur député La République En Marche. Ils sont allés voir directement avec un téléphone en train de le filmer et de le passer en direct sur Facebook en disant « Vous avez voté cette loi, vous avez soutenu cette loi. Pourquoi ?» Le gars a complètement refusé de répondre en disant qu'il voulait tout à fait bien parler, mais qu'en privé, pas avec une caméra. Bon, il est député, hein, mais du coup, donc il a refusé de répondre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont muré son cabinet. Voilà, quand on va sur leur site, on trouve des choses comme « À noter que l'association cesse la défense des droits individuels pour se recentrer sur le militantisme et l'action de défense collective. » Faute de moyens humains suffisants, face à l'ampleur des régressions en cours et à venir dans le monde du handicap, nous allons privilégier l'analyse, l'action contentieuse, l'action coup de poing et la pémulation. Alors ça, je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou pour accompagner les personnes et les aider à apprendre à se défendre elles-mêmes. Handisocial, une affaire à suivre.
Et on va finir ce Canu Info, somme toute un peu en avance, mais avec un mini-agenda, et on va le faire dans l'ordre d'arrivée, où demain a lieu au collège occupé Maurice Sève, qui devient, je cite, le jeune c'est quoi, hein, le jeune c'est quoi. Voilà, alors quand je dis qu'il est occupé, c'est qu'il est squatté, hein. Je veux dire, c'est un collège abandonné, ça fait pas partie des écoles occupées, voilà, pour pas qu'il y ait confusion. Donc c'est un squat qui d'hébergement d'urgence pour mineurs isolés. Voilà, alors je cite le rappel sur Rebellion. Après un mois d'ouverture et un énorme élan de solidarité, l'artiste Théo Agaï offre une nouvelle façade au lieu. Voilà, en gros, ça va servir de prétexte à faire un goûter jeudi 25 octobre, donc demain, de 16h à 22h, voilà, au collège Maurice Sève, rue Thévenet, dans le 4e. Ensuite, jeudi prochain aura lieu le bistrot de la Caisse de Solidarité à l'atelier des Canulars, qui a lieu tous les premiers jeudis du mois. Voilà, alors c'est l'occasion, je cite, de se voir de manière régulière et conviviale pour soutenir les personnes touchées par la répression. Voilà, donc c'est le jeudi 4 octobre à l'atelier et c'est de 19h à 23h30 au 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement. Et tous les lundis, on va finir, se déroule la permanence juridique de soutien aux sans-papiers ou aux personnes qui ont des difficultés de papier, qui ont genre en ce moment des visas ou des... comment on appelle ça? J'ai un trou, vous savez quand on ne sait pas un visa, mais...
Une
carte de séjour, voilà. Voilà, ou un récépissé, ou ça. Bref, toutes les personnes qui sont en galère de papier, eh ben, vous pouvez aller demander un coup de main aux personnes. Alors, c'est tous les lundis. C'est au 91 rue Montesquieu à la Lutine. Et c'est donc tous les lundis de 18h30 à 20h. Et voilà. Et c'est 19h45.
Et c'est 19h45, et ben du coup on vous laisse avec un petit quart d'heure de petite musique de l'ordinateur en attendant Idées Noires.
L'émission de la coordination des groupes anarchistes. En attendant, merci de nous avoir écoutés et a priori...
Ouais, mercredi prochain, il y a des chances que vous n'ayez pas d'infos, hein, autant vous le dire tout de suite. Ça ouais. Serait pas étonnant que ah. Vous ayez les bandes continues à la place.
Alors tendez l'oreille et faites la différence.
Et ciao, il y a dans 15 jours alors.